La Catalogne, c'est l'actualité du jour et c'est la raison pour laquelle nous recevons Catherine Dutu, Barbara Loyer. Bonjour, vous êtes directrice de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous êtes une spécialiste de l'Espagne et on va vous faire entendre le son du jour qui est le discours de Carles Puigdemont, président donc de la Généralité de Catalogne. Il a parlé hier et en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai pas compris grand-chose.
Señores y señores,
mesdames et messieurs,
amb els resultats del referèndum de l'1 d'octubre passat,
avec les résultats du référendum du 1er octobre, la Catalogne a gagné le droit d'être indépendant et a gagné le droit d'être entendu et respecté.
Arrivats en aquest moment històric,
arrivé à ce moment historique et en tant que président du gouvernement autonome de Catalogne, j'assume et je présente le résultat du référendum devant vous et devant nos concitoyens. La Catalogne sera un État indépendant sous la forme d'une république. Avec la même solennité, le gouvernement et moi-même proposons que le gouvernement suspende les effets de la déclaration d'indépendance afin que dans les prochaines semaines, nous entamions un dialogue avec Madrid, sans lequel il n'est pas possible de parvenir à une solution commune.
La voix donc de Carles Puigdemont, comment interpréter ce discours, Barbara Loyer ?
C'est un discours qui permet, face à ses troupes, de déclarer l'indépendance, ce qui de fait a été fait réellement signé entre les partis nationalistes. Juste à la sortie de cette session parlementaire, ils se sont réunis dans une salle du Parlement et ils ont signé tous ensemble une déclaration d'indépendance de création de la République catalane.
Ce qui veut dire que la Catalogne est indépendante aujourd'hui.
Non, parce que ça n'a pas de force légale, d'accord ? Et en même temps, donc, d'une certaine manière, pour le mouvement nationaliste, il s'est passé quelque chose décaféiné, on va dire, puisque elle est suspendue. Et suspendue, ça signifierait, d'un point de vue pratique, puisque c'est une figure légale qui, à mon avis, n'existe pas trop, mais d'un point de vue pratique, ça veut dire qu'il y a donc toujours un gouvernement régional en place. Et comme il y a toujours un gouvernement régional en place, ça ralentit, on va dire, la possibilité de l'application de l'article 155 qui viserait à mettre un gouvernement en fonction pour remplacer l'absence de gouvernement. Donc du coup, ça permet à Puigdemont et à son gouvernement de rester là, de continuer à être à la manœuvre, d'avoir toujours la main sur la télévision et de continuer le processus pour finalement, à un moment donné, essayer d'améliorer le rapport de force en leur faveur qui, pour l'instant, n'est pas suffisant. Et je pense que c'est ce que leur ont fait comprendre un certain nombre de leurs co-indépendantistes, on va dire, et aussi la classe économique locale.
Alors, si je vous suis bien, Barbara Loyer, ça ralentit l'accélération, ou en tout cas la route vers l'indépendance.
Voilà, c'est une vraie fausse déclaration. Je pense que l'idée est de d'abord ne pas provoquer de situation insurrectionnelle. Je pense qu'il y a une bonne partie de son parti à lui, qui est le PD4, qui est conservateur théoriquement, un petit peu comme le Parti révolutionnaire institutionnel sous d'autres latitudes. C'est donc un parti conservateur qui a dû peser pour éviter de donner trop de latitude au parti anti-système d'extrême gauche, la CUP, qui est dans la coalition indépendantiste.
Alors on va essayer de comprendre comment historiquement s'est construite cette région catalane et comprendre également comment son indépendance peut aujourd'hui être au cœur de l'actualité la plus immédiate. Mais avant cela, il faudrait que l'on essaye de comprendre les analyses qui sont faites ce matin par la presse espagnole. Alors de El Mundo à El País, Barbara Loyer, on trouve des analyses qui sont très divergentes. Les uns disent que finalement le but de Puigdemont, c'est de déstabiliser l'Espagne. Les autres pensent qu'il s'agit tout simplement d'un recul et que finalement, eh bien, il n'a pas eu le courage d'imposer l'indépendance. Votre analyse à vous ?
Si vous voulez, c'est pas contradictoire. S'il s'agit de déstabiliser, si ça n'est qu'un recul, l'objectif de déstabiliser l'Espagne reste entier.
Et c'est possible pour vous
pour
que ce
mieux
soit
sauter.
Sa stratégie.
Alors, Puigdemont est indépendantiste. Donc, si le rapport de force lui est favorable, Puigdemont veut que la Catalogne soit un État indépendant avec de nouvelles frontières, comme si l'ancienne Rhône-Alpes déclarait son indépendance. Du point de vue du choc économique, c'est équivalent. Donc, Puigdemont voudrait qu'il y ait une frontière, un État, une police, une armée, tout comme un vrai État, et qu'il soit reconnu au même niveau que le gouvernement de l'État espagnol. D'ailleurs, cette déclaration d'indépendance, qui n'en est pas une, vise à essayer de monter une marche dans le rang institutionnel à l'international. international et d'être mis en face du gouvernement Rajoy comme un égal.
Mais comment le faire avec un référendum où il n'y a eu qu'une minorité de votants? Alors il y a bien sûr une majorité de gens qui étaient favorables à la Catalogne indépendante dans ce référendum, mais a priori rien qui puisse permettre de dire la majorité des Catalans sont favorables à l'indépendance.
La majorité des Catalans n'est pas favorable à l'indépendance.
Vous en êtes sûr?
Oui, enfin, je veux dire, maintenant, en fait, si vous voulez, quand on fait un référendum ou un sondage, il exprime un moment, et c'est parfois même une émotion du moment.
Bien
Donc
sûr.
On peut avoir un référendum qui devient finalement majoritaire, ou des élections qui donneraient la majorité aux nationalistes séparatistes, parce que se joindrait à eux une partie de l'extrême gauche qui, il y a 5 ou 5 ans, n'était pas forcément indépendantiste, mais qui, aujourd'hui, voterait oui, par principe, on va dire. Donc, en fait, on ne sait pas du tout ce que donnerait aujourd'hui de nouvelles élections. En tout cas, en 2015, les élections régionales ont donné une majorité en voix aux non-indépendantistes et une majorité étroite en siège aux indépendantistes. Lorsqu'il y a eu le vote du statut d'autonomie de 2006, les Catalans ne se sont pas déplacés à plus de 50%. Au contraire, enfin, plus de 50% de la population est restée à la maison. C'était pas leur problème. Leur problème, c'était le chômage et l'ETA, pas d'avoir plus ou moins de compétences. Donc la population catalane, elle vit dans un système extrêmement décentralisé. En fait, il y a pas mal de gens en Catalogne qui sont pas trop d'accord avec la domination permanente, on va dire, du nationalisme au pouvoir, parce que les nationalistes sont toujours ou pratiquement toujours le premier parti. Donc, ils gouvernent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont la majorité, mais ils sont le premier parti. Ça induit un mode de gouvernement, souvent, on va dire, très favorable à l'idéologie nationaliste. Mais plutôt que de se fâcher en permanence avec ses voisins, les parents d'élèves, les copains dans les associations ou la famille, comme finalement on vit dans un État libre, démocratique, beaucoup de gens ne disaient rien.
Alors c'est la majorité silencieuse, parce que là,
c'est une majorité silencieuse qui finalement acceptait le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui leur convenaient pas, mais enfin c'est quand même un pays démocratique. Et là en Catalogne, on peut vivre normalement, même si il faut que les enfants apprennent le catalan à l'école, même si la radio contrôlée ou la télé contrôlée par la Generalitat est pénible, on en regarde une autre ou on en lit un autre.
Pourquoi? Parce qu'elle est pénible.
Ah bah là, je la suis que pas tous les jours 24 heures sur 24, mais tous les articles qui sortent à son sujet aujourd'hui disent que c'est vraiment la feuille paroissiale de la Generalitat, avec une diffusion d'un véritable mépris, de ressentiment contre l'Espagne, les Espagnols, sont ressassées toutes les périodes de l'histoire dans lesquelles rien ne serait allé, l'idée qu'il y a une incompatibilité entre des Espagnols et des Catalans. L'impossible, enfin voilà, et là il y a des personnes qui travaillaient à la télé catalane, donc qui sont parties en disant qu'ils en avaient assez d'être les opposants, d'être un faire-valoir, parce qu'en fait ils étaient systématiquement mis en minorité, on va dire, par les personnes invitées, par les présentateurs, donc là il y a un débat qui s'ouvre sur véritablement cette télé contrôlée par la Generalitat. Donc il y a eu beaucoup de Catalans qui n'ont rien dit depuis les années 80, parce que malgré tout c'est un endroit agréable à vivre. Là maintenant, avec la manifestation des anti-indépendantistes, les choses peuvent être aussi bougées. Il commence à y avoir des parents qui portent plainte, des gens qui donc du coup expriment le fait qu'ils sont aussi espagnols et catalans. Donc les rapports de force vont bouger. Il est très difficile de savoir ce que ça va donner à court et moyen terme.
Mais alors qui étaient ces manifestants? Parce que là aussi on a entendu beaucoup de choses. Barbara Loyer, on a entendu dire que cette manifestation était noyautée par l'extrême droite. En France, comme on utilise les repères que l'on connaît, on a dit que finalement c'était très semblable à cette manifestation qu'il y a eu en mai 68 pour soutenir le pouvoir gaulliste, ce qui est probablement assez éloigné de la situation véritable en Espagne, puisqu'on voit pas très bien où est De Gaulle et où est Cohn-Bendit. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les participants à cette manifestation?
Les participants à cette manifestation sont des gens qui ont voulu descendre dans la rue pour protéger ou défendre un État qu'ils jugent et qui est démocratique. C'est un des États les plus décentralisés d'Espagne. Et comme je vous le dis, c'est tellement décentralisé que depuis les années 80 s'est mis en place un véritable système géopolitique nationaliste en Catalogne sans que personne, depuis le gouvernement central, ne l'empêche d'exister, et presque je dirais même au contraire. Donc c'est un système démocratique imparfait, puisqu'il y a eu toutes les affaires de corruption, puisque voilà, comme bien des États
alors,
en Europe.
Affaires de, et du coup, les affaires de corruption, il faut expliquer, puisque donc avant Puigdemont, la Catalogne et la présidence de la sécurité de la région catalane était entre les mains de Jordi Pujol, qui est un homme qui a marqué de son empreinte la Catalogne, et cet homme a également été convaincu de fraude fiscale sur des sommes qui sont des sommes extrêmement importantes, hein, puisque on parle de dizaines de millions d'euros.
Milliards. Moi, je n'ose jamais le dire, mais il y a ça.
Vous pour parlez
la fortune,
de milliards. Moi, j'ai lu millions.
Pour la fortune personnelle.
On parle d'une fortune de, en milliards.
C'est, moi, oui, c'est ce qu'on voit passer dans les journaux. Donc, j'ai toujours, ça me semble inconcevable, mais c'est ce qu'on voit dans les journaux.
Bon, j'ai regardé ce matin, j'ai vu par exemple qu'il y avait un dernier versement litigieux, pour dire le moins, de 3,5 millions d'euros. Mais enfin, en tout cas, tout cela est parfaitement illégal. Et il a reconnu d'ailleurs avoir commis des malversations, Jordi Pujol. Et du coup, eh bien, on en vient à imaginer qu'il pourrait y avoir des connivences parmi les indépendantistes. Je ne dis pas tous les indépendantistes, mais par exemple, Jordi Pujol et des systèmes quasi mafieux.
La famille Jordi Pujol, c'est quelque chose d'un petit peu spécial dont faudra faire l'histoire, parce que ses 8 enfants et son épouse sont tous poursuivis pour malversation et pour avoir mis des sous dans des paradis fiscaux et à Andorre en emmenant l'argent dans des valises. Et comme Jordi Pujol est resté à la tête de la Generalitat pendant 6 mandats, je crois, il se faisait appeler l'honorable Pujol, du coup, et qu'il y avait un système de commission systématique pour toutes les travaux publics qui étaient donc commandés par la Generalitat. Tout ça est en train d'être jugé, mais ça fait en effet beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est aussi ce défi. Et Artur Mas, qui est donc le président de la Generalitat juste avant Puigdemont, était très lié à Pujol. Donc tout ça, c'est vrai, arrive opportunément pour qu'on parle d'autre chose.
Mais la question, oui, la question qu'on se pose quand même, Barbara Loyer, c'est de savoir si on a affaire à une famille qui a commis des malversations ou bien si on a affaire à un système.
Pour ce qui est du système de corruption en Catalogne, moi, pour l'instant, je ne pourrais pas m'avancer parce que les choses sont en jugement. Il n'y a pas tant d'élus que ça qui sont devant les juges, alors que, par exemple, à Valence...
Mais les principaux le sont.
Le problème, voilà, c'est ça, c'est que Pujol était censé être l'honorable président, celui qui rassemblait la Catalogne, celui qui ferait le pays. Il y a, si vous voulez, une énorme symbolique mobilisée, construite par Pujol autour de la Catalogne comme le pays qui marche bien, où il fait bon vivre, qui accueille tout le monde. Et, alors que il y a quand même un projet de construction d'un système géopolitique nationaliste.
Je n'aimerais pas vous faire dire des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas être certaine, mais le tout se déroule quand même sur fond de corruption généralisée en Espagne, avec des systèmes donc de pompes à finances liés au BTP, puisque les bâtiments et travaux publics ont connu de très belles années en Espagne. Beaucoup de maires en ont profité, beaucoup de politiques. Rajoy et lui-même aux prises avec des affaires de corruption. Il y a très peu de régions où la corruption semble-t-il n'a pas frayé son chemin parmi les politiques. Du coup, certains Espagnols, on les dit, on les entend, disent que Puigdemont aussi bien que Rajoy appartiennent à un système qui est en grande partie douteux.
Alors, c'est vrai que les années 80-90 jusqu'à l'éclatement de la crise économique sont des années dans lesquelles la classe politique espagnole et la population espagnole qui a été, on va dire, poussée dans ce sens-là, a pensé beaucoup, on va dire, à profiter des possibilités d'enrichissement et non seulement donc à tourner d'une certaine manière la page de l'Espagne faiblement développée. Et ça s'est fait dans une sorte d'insouciance de la part de la population et d'aveuglement de la part du personnel politique qui a du coup a perdu toute idée d'éthique en politique. Et ça concerne tout le monde, en effet, en Espagne. Ça a donc, à mon avis, c'est important pour comprendre qu'il y a eu le mouvement donc des indignés qui a donné lieu à la création de Podemos. Or, Podemos n'existe véritablement au Parlement espagnol que parce qu'il s'est allié à des nationalistes et des régionaux.
Les Galiciens, les Basques, Valence. Aujourd'hui, Podemos est contre l'indépendance de la
Podemos,
Catalogne.
Podemos, si vous voulez, c'est un petit peu aussi comme le vrai faux passeport. Podemos dit qu'ils sont pour les référendums et contre l'indépendance. Et donc, ils sont pour la négociation. Mais qu'est-ce que serait une négociation ? De quoi parlerait-on ? Puisqu'il faudrait négocier avec des indépendantistes qui, eux, veulent une indépendance. Donc, Podemos ne clarifie pas les choses vis-à-vis de son électorat.
Pardonnez-moi, parce que là, pour le coup, la déclaration de la maire de Barcelone semblait plus claire que celle de Carles Puigdemont. Elle disait juste qu'elle était favorable à une expression démocratique, même si à titre personnel, elle n'était pas favorable à l'indépendance.
Voilà, donc on peut entendre beaucoup de choses. La question qui se pose pour le référendum, en particulier en Espagne, c'est qu'elle serait très compliquée et qu'il faudrait l'organiser pour qu'elle n'ait pas de conséquences graves sur l'ensemble de l'Espagne. Il faut l'organiser à partir de Madrid et dans un système qui serait un peu réformé et dans lequel les 17 communautés autonomes pourraient participer et donner leur point de vue, parce qu'un référendum en Catalogne entraînerait une demande de référendum au Pays Basque. Le territoire basque est compliqué. Les nationalistes basques voudraient qu'il y ait la Navarre. Les Navarrais sont très souvent antinationalistes. Donc, si vous voulez, tout ça, il faudrait que ça se décide dans un système un petit peu mieux structuré qu'il ne l'est actuellement.
Est-ce que cet affrontement, finalement, il n'arrange pas tout le monde, puisque Rajoy a un grand nombre d'affaires de corruption et une situation économique qui n'est pas très glorieuse à défendre. De l'autre côté, Puigdemont a lui aussi un système qui est un système compliqué à défendre. Cet affrontement, finalement, est-ce qu'il ne vient pas de manière opportune ?
Je pense que non, là, surtout au point où on en est, on peut se dire que cet affrontement a déjà déstabilisé beaucoup l'Espagne.
Non, ça, on le comprend bien, mais sur le plan politique, pour ces deux hommes-là.
Non, là, Rajoy, il a un petit peu, manifestement, il a agi au jour le jour avec le nez sur le guidon, puisque la manière dont il a raté son 1er octobre et l'empêchement du référendum était quand même surprenante. Il est soumis à des pressions extrêmement contradictoires pour être plus ferme, moins ferme, dialoguer, pas dialoguer. Le Parti Socialiste risque aussi très gros dans cette affaire, puisqu'ils ont, sur leur extrême gauche, Podemos en embuscade et qui sont très divisés là-dessus. Et Puigdemont, il joue aussi à la fois sa carrière politique et la Catalogne joue sa stabilité, puisqu'on a quand même aussi en embuscade un parti anti-système qui pourrait devenir insurrectionnel si on ne fait pas trop ce qu'il veut. Donc non, la situation, elle est quand même très instable et elle pourrait devenir dangereuse. Là, ça s'est calmé, il y a une sorte de souffle.
On vous retrouve aux environs de 8h20. On va continuer à évoquer cette situation que vous qualifiez de dangereuse. On va essayer de comprendre quelles sont ses racines historiques, comment s'est unifiée l'Espagne et finalement, si l'on voit les résurgences d'un certain nombre de crises qui, par le passé, n'ont pas été résolues, guerre civile espagnole ou pas, certains parlent d'une nouvelle page dans ce domaine. 8h sur France Culture.